À la une enquête en cours pour tenter de retrouver les braqueurs de la mobile de Cuccio. 6 hommes qui sont entrés dans la station-service lundi soir, cagoulés et armés de sabres d'abattir. Des juges d'instruction favorables à une remise en liberté sous contrôle judiciaire, mais le parquet de Paris qui s'oppose à cette décision. Le cas de Christian Théin est actuellement examiné par la justice en métropole. Le ministre des Outre-mer répondait aux questions des députés calédoniens la nuit dernière à Paris. Manuel Valls qui tentait de défendre sa méthode devant l'Assemblée nationale. Les prévisions météo, après les fortes précipitations de la nuit dernière, ce sont des rafales de vent et notamment un coup d'ouest qui sont annoncées pour demain. Le Congrès supprime la taxe soleil, un texte de l'ancien gouvernement qui prévoyait de faire payer des majorations aux personnes ayant opté pour des installations photovoltaïques. L'actualité dans la région Pacifique, l'Australie, le Japon et les États-Unis veulent accroître leur coopération afin d'assurer la stabilité régionale. Et le sport, un mental d'acier pour viser la médaille d'or. Axel Raymond repart à l'assaut des championnats de France de force athlétique le week-end prochain en métropole. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Soir. À la une de l'actualité, on vous l'annonçait ce matin, un vol à main armée qui a eu lieu à la station mobile de Cuccio. Les faits remontent à lundi soir, Charlotte Coulson.
6 hommes sont arrivés en pick-up. Ils ont dissimulé leur visage en arrivant sur les lieux. C'est donc cagoulés et armés de sabres d'abattis qu'ils sont entrés dans cette station en cours de réfection puisqu'elle avait subi d'importants dommages pendant la période des émeutes insurrectionnelles. Ils ont alors demandé à tout le monde de se mettre à terre et ont fait main basse sur la caisse. Le montant du butin est estimé à 1 million de francs plus des cigarettes. Les cambrioleurs qui ont ensuite repris la fuite à bord de leur pick-up sont toujours activement recherchés par la gendarmerie qui a ouvert une enquête. L'événement indigne l'équipe municipale de la commune. Dans un communiqué, le maire de Dimbéa, Yoann Le Courrieux, condamne fermement le braquage dont ont été victimes la station-service et son personnel. Il appelle tous les commerçants à faire preuve de vigilance face à la recrudescence, dit-il, de l'insécurité dans le Grand Nouméa.
C'est un fait. En relation avec les autres polices municipales et entre les autres municipalités, on s'aperçoit que depuis quelques semaines, il y a une recrudescence de signalements dans l'ensemble des communes, et donc particulièrement aussi sur Dimbéa, tous les quartiers, mais particulièrement les quartiers où il y a des commerces de proximité. Les faits principaux, c'est beaucoup de vols ou de tentatives de vols qui nous sont signalés par les habitants ou par les chefs d'entreprise. Nous, on a le moyen d'accentuer nos rondes de police municipale sur les lieux à risque, mais en même temps, c'est aussi à l'État et à la gendarmerie nationale de garantir la sécurité à tous les Dimbéens.
Et la ville tenait par ailleurs un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance hier après-midi à l'hôtel de ville. Et puis le groupe Génération Dimbéa a aussi réagi à ce braquage. Il dénonce ces actes et affiche son soutien aux employés de la station-service. Les élus Génération Dimbéa demandent à l'État de maintenir la présence des forces de sécurité de façon visible et permanente dans les zones stratégiques de la commune.
Christian Théin pourrait éventuellement être libéré. Les juges d'instruction qui l'ont auditionné fin mai ont décidé de le remettre en liberté sous contrôle judiciaire, mais le parquet de Paris s'y est opposé et c'est la cour d'appel qui va devoir trancher, Elisabeth Noir.
Le leader de la CCAT et président du FLNKS n'est pas encore libre. Il reste pour l'instant en détention provisoire au centre pénitentiaire de Mulhouse, où il était incarcéré il y a près d'un an, en juin 2024. On sait que le dossier a été dépaysé en janvier et les trois juges d'instruction qui ont interrogé Christian Théin le 27 mai ont accepté hier sa remise en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction de se rendre en Nouvelle-Calédonie et interdiction d'entrer en contact avec 13 autres protagonistes du dossier. Selon une source proche de ce dossier, les magistrats ont notamment estimé qu'à ce stade de la procédure, il n'est pas démontré que Christian Théin ou d'autres mis en examen auraient préparé un attroupement armé ou un groupement violent. Il relève notamment que l'érection de barrages est fréquente en Nouvelle-Calédonie et qu'il est imputable tant aux militants indépendantistes qu'aux voisins vigilants. Mais après la décision du juge, le ministère public a déposé un référé détention. Et dans l'immédiat, Christian Théin reste en prison. Le parquet estime en effet que le leader de la CCAT a occupé une place centrale comme commanditaire d'un plan d'action violente contre l'État en trois phases, visant à déstabiliser les entreprises et les commerces, les administrations et les services de l'État, par la commission de nombreuses exactions contre les biens et les personnes. C'est maintenant un juge de la Cour d'appel de Paris qui doit trancher. Il a 48 heures pour dire s'il suspend ou non les effets de l'ordonnance de mise en liberté. S'il suspend cette mise en liberté, Christian Théin restera en détention jusqu'à l'audience à la chambre de l'instruction, qui est prévue dans les 10 jours. et qui devra à son tour confirmer ou infirmer la remise en liberté.
Au moins 3 autres membres de la CCAT détenus en métropole, Dimitri Kenegay, Guillaume Vama et Erwan Waitehan, ont bénéficié de la même décision de libération de la part des juges d'instruction, mais de la même manière, le parquet s'y est opposé. Rappelons que de son côté, Frédéric Mouliava a été autorisé vendredi à quitter la métropole et à rentrer à Nouméa. La méthode n'a pas changé, affirme Manuel Valls, interrogé à l'Assemblée nationale par le député Emmanuel Tchibaou sur l'initiative prise par le président de la République d'inviter les parties prenantes de la Nouvelle-Calédonie à Paris. « Je crois qu'un accord est possible », a martelé le ministre des Outre-mer, qui a aussi été interrogé lors de cette séance par le député Nicolas Metzdorf, Elisabeth.
Lors de cette séance des questions au gouvernement à l'Assemblée, le député Metzdorf a interpellé Manuel Valls sur le sentiment d'abandon que peuvent ressentir les ultramarins. Avec une question, la France a-t-elle encore une ambition pour elle-même ? Dans sa réponse, le ministre des Outre-mer a défendu la politique menée outre-mer par le gouvernement, que ce soit à Mayotte, à La Réunion, aux Antilles, en Guyane, ou bien sûr en Nouvelle-Calédonie, où il faut, dit-il, trouver un chemin entre les aspirations des uns et des autres. Le député Nicolas Metzdorf a réagi après la réponse du ministre des Outre-mer en réaffirmant la volonté des partisans de la France de trouver un accord.
Vous savez, en Nouvelle-Calédonie, on a l'habitude d'arriver à finalement s'entendre. Et ne doutez pas de la volonté des non-indépendantistes de trouver un accord qui permette à la Nouvelle-Calédonie de se reconstruire dans la paix. Mais, monsieur le ministre, ce nouvel accord devra être dans le choix des Calédoniens, celui de la France.
C'est ensuite son collègue de la seconde circonscription, Emmanuel Tchibaou, qui a interpellé Manuel Valls. Le député indépendantiste a d'abord relevé que le président de la République avait annoncé qu'il reprenait la main sur le dossier calédonien et il s'inquiète de voir un changement de méthode dans les discussions. Mais il évoque également le projet proposé par Manuel Valls à Deva, en parlant d'ailleurs d'un projet d'État confédéré.
La rencontre de Deva, si elle n'a pas abouti à un accord, reste un point d'étape majeur dans l'élaboration de l'accord politique, toujours en cours de discussion, tant il a recueilli les faveurs de la majorité des groupes politiques présents, ainsi que celles du FLNKS. Il faut l'enrichir, le capitaliser afin de répondre aux attentes de nos populations. La question qu'on se pose, c'est comment capitaliser le passif de cette méthode qui nous a ramenés sur le chemin de la concorde et faire aboutir un accord politique si, une fois encore, la méthode et le format de discussion changent à nouveau.
La méthode n'a pas changé, c'est la réponse de Manuel Valls. Il réaffirme sa volonté de poursuivre sa mission et de conclure un accord.
La méthode n'a pas changé. Le Premier ministre m'a confié une mission de rétablir la voie du dialogue, c'est fait, et de conclure un accord de paix en Nouvelle-Calédonie. Et cette mission, elle se poursuit, sous l'autorité du président de la République, bien évidemment, et avec la confiance du Premier ministre. Et tant que j'aurai cette énergie, et tant que je penserai qu'un accord est possible, je poursuivrai cette mission. Et je suis convaincu qu'un accord est possible. Et pourquoi un accord est possible en Nouvelle-Calédonie ? C'est parce que son économie est aujourd'hui à terre, parce que nous risquons une explosion sociale, parce que le système de santé s'est effondré, parce qu'il y a des centaines de sans-domicile fixe à Nouméa, parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Alors notre devoir, notre responsabilité, celle de l'État, mais aussi d'abord celle des élus calédoniens, mais également des forces économiques et sociales, c'est de trouver un accord. Parce que sans accord, il ne peut pas y avoir de rétablissement de l'économie et de la situation sociale en Nouvelle-Calédonie.
Et le ministre des Outre-mer a précisé le format qui devrait être celui de ces discussions qui doivent se dérouler à Paris. Il précise également leurs objectifs.
Dans les jours qui viennent, nous ferons avec le président de la République et le chef du gouvernement des propositions de dialogue ici à Paris, peut-être avec les forces économiques et sociales, sans doute avec les maires, mais d'abord avec les forces politiques. Et en achevant le processus de décolonisation et en allant jusqu'au bout du droit à l'autodétermination, en respectant bien évidemment la parole des Calédoniens, mais en n'oubliant pas l'histoire et le passé qui a conduit au désastre des années 80 et qui a conduit au drame de 2024. Donc de toutes mes forces, monsieur le député, je suis convaincu, avec votre soutien et aussi avec celui de Nicolas Metzdorf, nous trouverons une solution. C'est essentiel pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi pour notre patrie, pour la France.
Manuel Valls qui confirme donc son implication et son engagement dans le dossier calédonien, ainsi que sa volonté de trouver un accord qui, selon lui, est possible. Il faut noter qu'il n'y a pas encore de date précise pour ces discussions qui devraient reprendre l'initiative du président de la République. On parle de la deuxième quinzaine du mois de juin ou du début du mois de juillet, mais rien n'est encore fixé officiellement.
Merci Elisabeth. En bref, les forces armées en Nouvelle-Calédonie annoncent qu'une nouvelle mission a été menée la nuit dernière. Une évacuation sanitaire réalisée grâce à l'appareil Puma des FANC. Un nourrisson en couveuse ainsi qu'un homme de 46 ans en urgence vitale ont été transportés de Koné jusqu'au Médipôle de Koutio pour y être pris en charge. Les militaires annoncent qu'il s'agit de la 15e intervention de ce type réalisée par les équipages de la base aérienne 186 lieutenant Paul Klein de la Tontouta depuis le début de l'année.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, après la mort d'un homme victime d'une crise cardiaque devant l'hôpital de Koumak, dont les urgences sont fermées, 94% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS disent craindre de nouveaux drames en raison de la crise sanitaire qui frappe la province Nord. Ils sont 6% à ne pas partager cette crainte. Notre question du jour, partagez-vous le sentiment du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui estime, à la suite des débordements consécutifs à la victoire du PSG, que les condamnations ne sont plus à la hauteur de la violence que connaît notre pays. Si vous partagez ce sentiment, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Vos rendez-vous d'antenne. Dès lundi prochain en métropole, la ville de Nice accueillera la conférence des Nations Unies pour l'océan. Plusieurs institutions et organismes calédoniens vont y participer. Nous en parlerons avec notre invité du matin. Demain à 7h30, nous recevrons en effet Virginie Blétrac, la directrice de l'AFD pour le Pacifique, qui anime l'initiative Kiwa et qui participera à cette conférence internationale. Ce sera l'occasion aussi de revenir avec elle sur les 5 ans de Kiwa et sur l'événement qui s'est tenu à Nouméa pour l'occasion fin mai. L'exportation peut-elle être un levier de croissance pour les entreprises calédoniennes? Quels sont les marchés porteurs dans la région? Comment accompagner les entreprises qui souhaitent se tourner vers l'export? Ce sera le thème des jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu demain midi. Jean-François Baudin recevra Candice Levet, conseillère internationale à la CCI. Guillaume Martineau, membre associé à la CCI. Cédric Gobin, gérant de la société GFC qui a participé à une mission export au Vanuatu en mars dernier. Et Paul Nekoeng, gérant de la société La Case du Miel, qui a exposé pour la première fois sur un salon à Singapour.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Point d'Imier, c'est le 100.
Un point sur le phénomène météo qui concerne la Calédonie ces dernières heures. Après une nuit et une matinée marquées par de fortes pluies et des orages sur une grande partie du territoire, la situation s'est partiellement calmée ce mercredi après-midi. Cet axe pluvio-orageux qui a continué de balayer les îles Loyauté s'évacue désormais vers le Vanuatu. Cependant, Belep, la côte ouest et l'île des Pins sont de nouveau placés en vigilance jaune pour vent violent. C'est ce que nous dit Stéphane Lacroix. Il est prévisionniste à Météo France Nouvelle-Calédonie.
Le vent du secteur ouest va progressivement se renforcer dans le cours de la journée de demain. Demain matin, on devrait avoir 15 à 20 nœuds du secteur ouest, donc sur la côte ouest et l'île des Pins. Et progressivement, dans l'après-midi, ça va se renforcer de 20 à 25 nœuds, avec des rafales jusqu'à 35 nœuds. Mais les vents les plus forts sont attendus pour la nuit de jeudi à vendredi, avec un vent de secteur ouest qui va se renforcer de 25 à 30 nœuds, avec des rafales jusqu'à 40 nœuds, soit environ 70 km/h. Pour les plaisanciers, il va y avoir un BMS qui va être émis sans doute demain matin, donc renforcer les amarres. Et puis pour les gens qui sont au mouillage dans les baies exposées, aller se mettre à l'abri du vent d'ouest.
Avec le renforcement du vent d'ouest, Stéphane Lacroix signale une houle pouvant également atteindre 4,50 m sur toute la façade ouest de la Grande Terre. Il est 17h passé de 59 minutes. Une page de publicité dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité. On reparle de la taxe soleil et les propriétaires de panneaux solaires qui y voient plus clair.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Chers amis golfeurs, The Amateur Golf World Cup est de retour et s'appelle désormais la Summer Bay World Cup. Vous aussi, tentez votre chance pour représenter la Nouvelle-Calédonie en Égypte. Prochaine qualification de la Summer Bay World Cup, le samedi 7 juin, en formule Stableford au golfe de Dumbéa. Inscription par mail sur agcdumbéa@gmail.com.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'info soir, Michael Juneski.
La bonne nouvelle pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques. La taxe soleil, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, a été supprimée aujourd'hui. C'est une décision du Congrès dont la commission permanente était réunie cet après-midi. Charlotte Coulson.
Les élus étaient réunis pour examiner un projet de délibération relatif au système électrique de la Nouvelle-Calédonie. En août 2024, un amendement a en effet introduit une nouvelle tarification concernant les particuliers propriétaires de panneaux photovoltaïques. Il s'agit d'une prime d'utilisation du réseau dont ils devaient s'acquitter annuellement d'un montant de 5000 francs par kilovolt-ampère. C'est la fameuse taxe soleil qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2025. Et depuis l'année dernière déjà, certains membres du gouvernement, et notamment Christopher Gigès, en charge de l'énergie, souhaitaient la supprimer. Elle a d'abord été suspendue le 12 février dans l'attente de l'analyse de la commission de régulation de l'énergie avant finalement d'être supprimée aujourd'hui. Un soulagement pour Christopher Gigès.
Déjà, je suis très heureux que le Congrès ait pris la décision de supprimer cette taxe qui était totalement injuste puisqu'elle venait taxer les Calédoniens qui avaient fait le choix du développement durable mais également de soutenir leur pouvoir d'achat. Donc le Congrès est revenu sur l'amendement qu'il avait déposé. C'est un engagement que j'avais pris en arrivant au gouvernement en récupérant le secteur de l'énergie. On l'avait voté en février. Ça a un peu tardé au niveau du Congrès, mais le Congrès a finalement décidé à la majorité de supprimer cette taxe, et qui est une très bonne chose.
Et la suppression de l'amendement instaurant la taxe soleil a été adoptée à la majorité aujourd'hui. L'UNI a voté contre cette suppression et les membres du groupe UCFLNKS et nationalistes se sont abstenus. Autre sujet à l'ordre du jour également de cette commission permanente, la date de la première session ordinaire de l'année 2025, qui a été fixée au 30 juin et durera 2 mois.
Le transfert des opérations d'ERC de Magenta vers la Tontouta sera mise en œuvre de manière progressive et concertée. C'est ce qu'indique le gouvernement dans un communiqué publié à la suite de la commission plénière du Congrès qui s'est tenue le 28 mai dernier. Jean-François Baudin.
Dans ce communiqué, le gouvernement tient à saluer les échanges constructifs et responsables qui ont porté sur la situation critique de la compagnie domestique, mais également sur le projet de transfert des opérations d'Air Calédonie de l'aéroport de Magenta vers l'aéroport international de la Tontouta. Et le gouvernement réaffirme l'importance stratégique de ce projet pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Le président du gouvernement, Alcide Ponga, rappelle que ce projet sera mis en œuvre de manière progressive, en concertation étroite avec l'ensemble des partenaires institutionnels, économiques et sociaux, ainsi que les populations locales concernées. Il précise que la mise en œuvre du projet sera engagée au sein d'un groupe de travail dédié rassemblant les parties prenantes. Pour le gouvernement, ce projet structurant est également crucial pour la survie économique d'ERCAL, dont la pérennité est menacée par les contraintes d'exploitation liées à la plateforme de Magenta. Il souligne que le regroupement des opérations sur un site plus adapté contribuera à améliorer l'efficacité opérationnelle de la compagnie et à assurer sa viabilité à long terme. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ajoute qu'il reste pleinement mobilisé pour faire avancer ce dossier dans l'intérêt général, en veillant à garantir l'accessibilité et la qualité de service attendue par les usagers du transport aérien.
Au chapitre social, les instances du MEDEF-NC seront renouvelées demain. Mimsy Delay devrait conserver la présidence du mouvement patronal, Jean-François.
Lors d'une assemblée générale qui se réunit ce jeudi à 16h, les adhérents devront d'abord renouveler les 3 membres du bureau, c'est-à-dire le président, le vice-président et le trésorier. L'actuelle présidente, Mimsy Delay, conduit la seule liste en lice et devrait donc retrouver son poste de présidente. L'actuel vice-président, Bertrand Courte, qui figure sur sa liste aussi. La fonction de trésorier assurée jusqu'à présent par Benoît Meunier devrait changer de titulaire. Les 3 membres élus font partie de la commission exécutive du MEDEF qui sera elle aussi renouvelée. Elle comporte 45 membres, les 3 élus du bureau, 12 membres de droit issus des entreprises les plus importantes et 30 membres issus des 6 sections du MEDEF, commerce, BTP, tourisme, services, mines et industrie, qui seront désignés en fonction des secteurs auxquels ils appartiennent. Rappelons que Mimsy Delay avait été désignée présidente du MEDEF le 18 février 2021. Alors que Samuel Népéoun, élu à ce poste quelques semaines plus tôt, avait choisi de démissionner pour siéger au gouvernement, dont il envisageait alors de prendre la présidence. Mimsy Delay avait été renouvelé dans ses fonctions de présidente, cette fois-ci à l'issue d'un vote en 2022.
Notez que la FCBTP a réuni son assemblée générale le 28 mai dernier et aujourd'hui, lors d'un conseil d'administration, elle a renouvelé ses instances. Éric Lafitte, de l'entreprise Arbé, a été élu président de la Fédération calédonienne du BTP. Ses 3 vice-présidents sont Yannick Briffa, Jean-Marie Maillet et Silvio Pantoni, le secrétaire de la FCBTP Stéphane Lutringer et le trésorier François Lebris. La station-service mobile de la Moselle à Nouméa a rouvert ses portes ce matin après presque un an de fermeture, Charlotte Coulson.
À la suite d'une opération de mise en conformité réglementaire, les anciennes cuves souterraines d'hydrocarbures ont été fermées et remplacées par des nouvelles. L'occasion, explique Franck Willem, directeur général de la société mobile, d'améliorer l'ensemble du site.
Sur la piste, avant, on avait que deux pompes. Donc, on a cassé l'ancien bâtiment de la station-service pour agrandir la piste, avoir un îlot supplémentaire de pompes. Donc, aujourd'hui, on a une capacité d'accueillir deux fois plus de véhicules sur la piste de carburant. Et en cassant l'ancien bâtiment, on a reconstruit la boutique dans l'ancien atelier qu'on avait sur la station-service. Ça nous a permis d'agrandir significativement la surface commerciale parce qu'on est passé d'une surface d'à peu près 50 mètres carrés à 110 mètres carrés. Donc, on a vraiment doublé la surface commerciale pour pouvoir après appliquer tous les standards de boutique qu'on a sur le réseau mobile, qui nous permet aujourd'hui de répondre à la demande de nos consommateurs qui sont friands de tous les produits qu'on peut proposer dans la boutique.
Une station qualifiée de bijou du réseau mobile par son directeur, qui représente un investissement de plus de 100 millions de francs et qui mobilisera une dizaine d'employés.
Le lancement de la 4e édition du rendez-vous des petits entrepreneurs. Après une année d'interruption, la CCI relance cet événement qui aura lieu le dimanche 23 novembre prochain à Nouméa et à Koné. Cette opération permet aux jeunes calédoniens de vivre l'expérience de l'entrepreneuriat en créant et en gérant leur propre petite entreprise le temps d'une matinée. Géraldine Calmette, élue de la CCI, nous en dit plus.
L'idée, c'est vraiment de promouvoir l'entrepreneuriat à travers toute la Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est de rassembler en fait les jeunes sur Nouméa et sur Koné pour qu'ils puissent vendre soit leurs services, soit leurs produits. L'objectif, c'est vraiment de développer le goût d'entreprendre dès le plus jeune âge. Donc sensibiliser à l'univers et aux valeurs de l'entreprise, développer la créativité, la confiance en soi, voilà comment trouver une idée d'entreprise, la mener jusqu'au bout, etc. Donc c'est aussi la fierté du travail bien fait. Aujourd'hui, en fait, il y a déjà quelques inscrits, dont un établissement scolaire qui sont déjà inscrits puisque on pouvait s'inscrire à partir du 26 mai.
Et pour y participer, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 14 septembre pour les jeunes de 6 à 17 ans.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Ouvéa, c'est le 103.5.
L'actualité régionale, les États-Unis, le Japon et l'Australie veulent accroître leur coopération. Même si l'Australie a refusé d'augmenter son budget défense, comme le demandait l'administration Trump, elle continue de collaborer avec les grandes puissances que sont le Japon et les États-Unis pour assurer la stabilité régionale. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Le ministre australien de la Défense, Richard Marsh, a précisé à l'issue des discussions que, je le cite, ce partenariat est essentiel pour nous préparer à relever les défis les plus urgents dans la région Indo-Pacifique. Nous avons réalisé des progrès significatifs dans le renforcement de notre interopérabilité trilatérale et notre coopération opérationnelle, a-t-il ajouté. Les États-Unis, le Japon et l'Australie ont également reconnu dans un communiqué la complexité croissante de l'environnement sécuritaire de la région et ont souligné le rôle crucial de leur partenariat stratégique pour assurer le maintien d'un Indo-Pacifique libre et ouvert. Nous nous engageons à continuer de travailler avec nos partenaires régionaux pour renforcer les capacités de défense collective et promouvoir la paix et la stabilité de la région, a conclu leur communiqué. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
18h passé de 8 minutes, une dernière page de publicité avant de voir tout le sport.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46.
Ici, on commence vraiment à sentir la fraîcheur du matin et du soir, pas vous? Alors si, comme ma famille, vous avez besoin de vêtements chauds à petit prix, Gémeaux propose jusqu'au 22 juin la suite de sa collection hiver avec encore plus de nouveautés, sans oublier les idées cadeaux pour la fête des pères.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
RRB. Première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Michael Juneski.
Axel Raymond sera engagé le week-end prochain au championnat de France de force athlétique en métropole. Après son titre de vice-champion du monde Masters décroché l'année dernière en Afrique du Sud, le Calédonien continue son aventure avec l'objectif de confirmer. Il sera en lice chez les moins de 93 kilos et ne cache pas ses ambitions sur la scène nationale.
Dans ma tête, je suis un petit peu plus posé qu'auparavant, mais j'ai quand même une petite pression sur ces championnats de France parce qu'il va falloir montrer que je mérite ma place. Je pars sur avec des objectifs, il faut que je prenne le titre de champion de France. Il y a quand même un gros morceau, c'est il y a un athlète qui vient de faire quatrième au championnat d'Europe, ce sera ma target un petit peu. Il va falloir que je démontre que les championnats du monde, ce n'était pas un hasard. Je suis arrivé au championnat du monde par un bien décalé en fin de compte, je suis arrivé au championnat du monde grâce à un repêchage. J'ai pas fait les qualifications au championnat de France et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir y participer. Donc il va falloir que je montre que j'ai ma place en équipe de France vu que j'ai pas été qualifié pour les championnats d'Europe n'ayant pas fait les qualifications des championnats de France 2024. Donc là je compte bien m'asseoir sur cette place et pouvoir dire voilà, je veux participer au monde et aux Europes.
Axel Raymond qui a atteint les sommets par ses propres moyens, sans sponsor, sans coach pour l'accompagner et sans jamais abdiquer. L'ancien champion de taekwondo a surpris la concurrence en force athlétique et il a gardé son mental de guerrier pour viser la victoire.
Je m'entraîne toujours en salle avec toujours les mêmes coéquipiers, Cobra et mon coach Kenny Wendt. Et bien sûr mes petits entraînements au fond de mon jardin. Ce sera encore un coaching à distance, mais bon, au fur et à mesure du temps, on commence à prendre l'habitude. Ça étonne beaucoup de personnes déjà quand je suis arrivé au championnat du monde l'an dernier, on me demande d'où je sortais, parce que je n'étais pas sur le circuit international, ni national. Aujourd'hui, voilà, on recommence à remettre la Nouvelle-Calédonie sur la carte. Je commence un petit peu à être un petit peu plus scruté. J'espère que d'autres athlètes vont suivre mon chemin. Comme je le dis toujours, c'est très facile d'arriver à un certain niveau, mais c'est beaucoup plus compliqué de le garder. Moi, je fais du sport en équipe de Calédonie depuis l'âge de 14 ans. On peut plus dire, est-ce que tu as le mental pour partir en compétition? En fait, on part comme si on partait au travail, tout simplement. Ça devient une habitude, c'est cyclique. Là, j'ai fait l'Open d'Australie. C'est tellement naturel pour moi que j'ai fait l'Open, je suis parti le vendredi, compétition le samedi, retour le dimanche. C'est devenu une habitude. Et là, pour les championnats de France, j'y vais avec une petite pression quand même, mais j'essaie d'y aller avec un petit peu plus de recul et avec un petit peu plus de maturité.
Axel Raymond, le Calédonien qui sera engagé lors des prochains championnats de France de force athlétique. Ce sera dans la nuit de dimanche à lundi pour nous. Il espère bien ramener encore une fois dans ses valises une nouvelle médaille. Sur le territoire en golf, la suite de l'Open Senior Hyundai sur les greens de la Wingy, tournoi qui a débuté hier, qui se poursuit jusqu'à demain. Au classement brut, à l'issue du premier tour, c'est Lydie de Carvalho du club de Tina qui est en tête chez les dames, tout comme Jean-Marc Saturnin, également du club de Tina chez les messieurs série 1 et 2. Alors que Dejan Simic du club de la Wingy est en tête du classement net masculin série 1 et 2. En série 3, l'Australien Roger Bordfield est en tête du classement brut et net. À l'occasion de la New Caledonia Groupama Race, le grand événement de la voile sur le territoire, dont le départ sera donné le 15 juin prochain, la galerie Port Plaisance et ses commerçants vous gâtent sur RRB chaque jour de cette semaine. Tentez de remporter un magnifique lot d'une valeur de 40 000 francs chez vos enseignes préférées de la galerie. Aujourd'hui, c'est Stéphane de Païta qui a remporté un pack d'une valeur de 41 400 francs qui comprend une paire de lunettes de soleil signées à Fleloup avec cordon, des bons cadeaux chez Brand Folly, Promode, VIP, Marlène, California, Sandwich & Co. et même la galerie Port Plaisance. Dès demain, vous pourrez encore remporter des bons cadeaux chez Zen Boutique, Promode, Brand Folly, VIP, Marlène, California, Sandwich & Co. Un cocktail de style de détente et de petits plaisirs à consommer sans modération. Pour jouer, c'est facile. Envoyez GR au 3146, 148 francs le SMS, tirage au sort chaque jour à 17h30. Et n'oubliez pas, le gros lot vendredi a remporté, grâce à Groupama, un tour en mer pour deux à bord du voilier Groupama Team. Il est 18h, passé de 13 minutes, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et nous avons évoqué dans la première partie de ce journal les vigilances jaunes, vent violent annoncé pour ce jeudi. On voit les prévisions dans le détail avec vous, Nicolas. Bonsoir.
Bonsoir, Michael. Oui, on va rappeler les vigilances. Donc, vigilance jaune pour vent violent sur Belep, la côte ouest et l'île des Pins. Le vent de secteur ouest se renforcera demain après-midi entre 20 et 25 nœuds avec des rafales jusqu'à 35 nœuds, c'est-à-dire 65 km/h. Alors, cette nuit, le ciel sera très nuageux avec des averses sur marée, l'île des Pins et la côte côte ouest. Sur la côte est, les éclaircies seront plus larges et le temps sera sec. Aux Loyautés, le vent de secteur nord-ouest sera compris entre 10 et 15 nœuds. Les températures minimales perdront 1 degré avec 20 à 23 degrés. Demain matin, sur l'ouest, l'extrême sud et les Loyautés, les passages nuageux qui circuleront déposeront des averses. Sur la côte est, à l'abri de la chaîne, le soleil dominera. Le vent de secteur ouest se renforcera entre 15 et 20 nœuds sur l'ouest et la pointe nord, 10 à 15 nœuds ailleurs, avec des accélérations de 15 à 20 nœuds en sortie des vallées de la côte est, Michael.